Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les documents sur le changement climatique et surtout comment ça se manifeste spécifiquement en France.
Oui, bonjour. L'idée, c'est de regarder les constats, les impacts qu'on voit déjà, que ce soit en métropole ou en outre-mer, et puis ce que l'avenir nous réserve, selon les projections.
Et d'entrée, il y a un chiffre qui frappe, hein. Ce réchauffement en France métropolitaine, il est nettement plus rapide que la moyenne mondiale. On parle de plus 1,7 degré Celsius depuis 1900 ici, contre plus 1,2 degré à l'échelle globale.
Exactement. Et 2022 et 2023, qui ont été des années records en termes de chaleur, elles illustrent parfaitement cette tendance.
Alors, regardons cette hausse des températures d'un peu plus près. 2022, l'année la plus chaude jamais mesurée chez nous, 14,5 degrés Celsius de moyenne. 2023, juste derrière.
C'est ça.
Mais au-delà des records ponctuels, c'est l'accélération qui est marquante. Plus 0,1 degré Celsius tous les 3 ans sur la dernière décennie, enfin 2010-2019.
Oui, tout à fait. Et ce qui est vraiment fondamental à comprendre, c'est que ce réchauffement plus marqué en France, il est, comment dire, très très majoritairement lié à nos activités.
Aux activités humaines. Ah oui.
Oui, les analyses sont claires sur l'augmentation de 1,66 degrés Celsius qu'on observe par rapport au début du XXe siècle. Eh bien, 1,63 degrés Celsius sont directement attribuables à l'impact humain. C'est énorme.
D'accord, donc ce n'est pas juste une fatalité globale. Nos actions locales, elles amplifient vraiment le phénomène ici.
Précisément. Et on le voit très bien dans certaines zones, comme les Alpes, les Pyrénées. Là, le réchauffement atteint même plus 2 degrés Celsius sur le siècle dernier. Pas étonnant que les glaciers fondent à vue d'œil.
Logique. Et j'imagine que cette chaleur, elle a d'autres effets en chaîne. Le niveau des mers, par exemple?
Absolument. Globalement, le niveau des océans a monté d'environ 23 cm depuis la fin du 19e siècle. Mais là aussi, on voit une accélération nette ces dernières années.
C'est-à-dire?
Entre 2006 et 2020, le rythme était de 3,8 mm par an. Et pour la France, la conséquence la plus directe, c'est l'érosion côtière. Ça touche plus d'un quart de notre littoral.
Plus d'un quart. Et on a des exemples précis de cette érosion des zones particulièrement touchées.
Oui, bien sûr. L'Aquitaine est souvent citée. Vous avez peut-être entendu parler de Soulac-sur-Mer. Là-bas, pendant l'hiver 2013-2014, le trait de côte a reculé jusqu'à 40 mètres par endroit. C'est spectaculaire.
40 mètres en un hiver.
Oui. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Les sources identifient quand même 864 communes comme étant particulièrement vulnérables à ce phénomène.
864, ça fait réfléchir. Bon, pour agir, faut comprendre d'où ça vient. Justement, les émissions de gaz à effet de serre en France, où en est-on? Quelle est la tendance?
Alors, le parcours est intéressant. On a eu un pic dans les années 70, puis une baisse assez nette dans les années 80. Notamment avec le développement du nucléaire et aussi des changements dans l'industrie.
D'accord.
Après, ça a eu tendance à remonter un peu, surtout à cause des transports dans les années 90 et début 2000. Mais depuis 2005, la tendance est à nouveau à la baisse et de manière assez constante.
Et ça donne quoi en chiffres, cette baisse?
Entre 1990 et 2021, on est sur une baisse de 24% des émissions globales en France. C'est pas négligeable.
Et aujourd'hui, quels sont les secteurs qui pèsent le plus? Alors, en 2022, le premier poste est de loin, ce sont les transports, 32% du total. Ensuite, on a l'agriculture, qui reste un secteur important et dont les émissions sont assez stables dans le temps. Et les autres, bâtiments, industrie. Pour les bâtiments, il y a eu une forte baisse en 2022. Bon, il faut dire que l'hiver était doux et qu'il y avait tout le contexte de la crise énergétique qui a poussé à la sobriété. L'industrie, elle, continue sa tendance à la baisse.
D'accord.
Par contre, petit point d'attention sur le secteur de l'énergie.
Ouais.
Lui, il a vu ses émissions augmenter ponctuellement. En 2022, c'était lié à l'indisponibilité de certaines centrales nucléaires. Il a fallu compenser. Donc oui, une tendance de fond à la baisse, mais on voit que c'est sensible à des facteurs conjoncturels. Compris. Au-delà des chiffres et des secteurs, l'impact sur la nature, sur la biodiversité, il est déjà là, il est visible, d'après ce qu'on lit.
Ah oui, tout à fait. C'est très concret. On observe des espèces animales et végétales qui migrent soit vers le nord, l'exemple du héron garde-bœuf, qu'on voit maintenant en Picardie est assez parlant, soit en altitude, pour chercher la fraîcheur.
Et ça perturbe les équilibres, j'imagine.
Énormément. Il y a ce qu'on appelle la désynchronisation. Par exemple, les plantes fleurissent plus tôt, mais les insectes pollinisateurs ne sont pas forcément synchronisés sur ce nouveau calendrier. Ça crée des problèmes. Et les poisons d'eau douce aussi, ils souffrent beaucoup. On estime qu'une espèce sur 5 est menacée, la truite, par exemple.
Et à l'inverse, ce changement climatique, Il favorise certaines espèces qu'on aimerait moins voir.
Exactement. Le cas typique, c'est le moustique tigre. Il vient d'Asie du Sud-Est, mais il trouve maintenant des conditions favorables pour s'étendre sur une grande partie du territoire français. Et avec lui, arrive le risque de maladies comme la dengue, le chikungunya.
Oui, on en entend de plus en plus parler. Et en mer, que se passe-t-il?
C'est pas mieux. Des espèces marines qui migrent vers les pôles, elles aussi. Et puis, il y a le phénomène tragique du blanchissement des coraux. Les sources parlent de 14% des récifs coralliens mondiaux qui ont disparu juste entre 2009 et 2018.
14% en moins de 10 ans?
Oui. Et même les mangroves, qui sont si importantes pour protéger les côtes, elles sont menacées.
Tous ces bouleversements dans la nature, ça a forcément des conséquences sur nos activités, sur l'économie. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
L'agriculture, bien sûr, est en première ligne. Les cultures de printemps, comme le maïs, sont de plus en plus vulnérables au manque d'eau, au stress hydrique. Et puis la vigne, les dates des vendanges avancent, parfois de plusieurs semaines par rapport à ce qu'on considérait comme normal il y a quelques décennies.
Et nos forêts? On entend dire qu'elles souffrent aussi?
Oui, beaucoup. La mortalité des arbres a fait un bond, plus 54% dans les années 2010 par rapport à la décennie précédente. Certaines essences n'arrivent plus à suivre et migrent, comme le pin maritime qui remonte vers le nord. D'autres, comme le chêne sessile, semblent un peu mieux résister, pour l'instant.
D'accord.
Mais un point très préoccupant, c'est que la capacité de nos forêts à absorber le CO2, leur rôle de puits de carbone, elle diminue, moins 21% juste pour l'année 2021.
Aïe. Une forêt qui absorbe moins de CO2, ça risque d'emballer encore plus le phénomène, non? C'est une boucle.
C'est exactement ça. Une boucle de rétroaction négative. Et il n'y a pas que l'agriculture et la forêt. Le tourisme aussi est touché.
Le tourisme d'hiver, j'imagine, hein?
Oui, principalement. Les stations de ski, surtout celles de basse et moyenne altitude, voient l'enneigement devenir de plus en plus aléatoire. Ça menace directement leur modèle économique. Et n'oublions pas les impacts sanitaires dont on parlait avec le moustique tigre. Ça a aussi un coût socio-économique non négligeable.
Bon, face à ce constat, déjà assez sombre, qu'est-ce que nous disent les projections les plus récentes pour l'avenir de la France?
Alors, là, il y a eu des travaux importants, notamment une étude CNRS Météo France sortie en 2022. Et comment dire, les nouvelles ne sont pas très réjouissantes. Elles suggèrent que le réchauffement potentiel pour la France pourrait être plus fort que ce qu'on imaginait jusque-là.
Plus fort, c'est-à-dire...
Si on prend un scénario intermédiaire, ni le plus optimiste, ni le pire, on pourrait atteindre un réchauffement de plus 3,8 degrés Celsius en France d'ici 2100, par rapport à l'ère pré-industrielle.
Plus 3,8 degrés Celsius? Mais les objectifs de l'accord de Paris, c'est bien en dessous de 2 degrés, non?
Oui, mais là, on parle du réchauffement spécifique à la France, qui, comme on l'a dit, est plus rapide que la moyenne mondiale. Et ce plus 3,8 degrés Celsius, c'est nettement plus que les plus 2,2 degrés Celsius qu'on envisageait avant pour ce même type de scénario pour la France.
D'accord. Et plus 3,8 degrés Celsius, concrètement, ça voudrait dire quoi pour nous?
Ça voudrait dire des étés qui seraient en moyenne 5,1 degrés Celsius plus chauds que début du XXe siècle. Imaginez.
5 degrés de plus en été?
Oui. Et surtout, des vagues de chaleur beaucoup, beaucoup plus fréquentes et plus intenses. On parle de 20 à 40 jours de canicule par an en fin de siècle. Aujourd'hui, c'est quelques jours, les très mauvaises années. Les sécheresses aussi seraient plus sévères, plus longues, plus étendues. C'est vraiment une autre échelle.
Cette réévaluation change la donne, en fait. Ça accentue l'urgence.
Complètement. Ça redéfinit l'ampleur des adaptations qui seront nécessaires sur nos territoires.
Bon, pour essayer de résumer tout ça, les documents montrent clairement que la France se réchauffe plus vite que la moyenne. Les conséquences sont déjà là, partout, sur les côtes, en montagne, sur la biodiversité, l'agriculture, les forêts, notre santé même.
C'est ça.
Et les projections indiquent que ça risque de s'intensifier peut-être même plus fortement qu'on ne le pensait il y a peu.
Exactement. Et ça nous laisse, avec une question de fond peut-être pour conclure, si ce réchauffement en France s'avère potentiellement, disons, jusqu'à 50% plus intense que ce que les modèles précédents nous disaient, qu'est-ce que ça implique vraiment sur la vitesse et l'ampleur des mesures d'adaptation qu'on doit mettre en place? Spécifiquement pour la France, hein, au-delà des efforts mondiaux pour réduire les émissions globales. C'est une question cruciale.